salut, c'est Alain, bassiste du groupe Ineptia. Vous êtes à l'écoute de la meilleure radio au monde, Nike Radio.
On est de retour à Prends ton gaz égal et c'est maintenant le temps de notre super chronique de l'autre côté avec Gaston. Gaston Gauthier, bonjour.
Bonjour Michel, comment ça va?
Ça va très bien toi-même?
Ça va très bien, moi je fais les maisons, j'ai mon petit chien sur les genoux. Je flatte mon petit chien, puis tout est beau dans mon monde. Il n'y a pas de problème. Je suis à la campagne, les oiseaux chantent. C'est merveilleux. La nature, je suis allé prendre une marche avec mon petit chien tout à l'heure, puis j'ai croisé personne, évidemment. J'étais à la campagne. C'est merveilleux. La rivière coule de plus en plus. Fait que c'est merveilleux. Mon monde est merveilleux. J'espère que ça va bien pour toi aussi.
Bien sûr, bien sûr. Puis en plus, on a un beau soleil aujourd'hui.
Oui, oui, c'est vraiment merveilleux, oui.
Alors, dis-moi, mon cher ami, de quoi parle-t-on aujourd'hui?
Je vais parler d'intelligence artificielle. Un peu faire le point où on en est. C'est un article que j'ai trouvé dans Québec Science du mois d'avril et mai 2019. C'est un article signé par plusieurs journalistes qui font un survol dans différents aspects de l'intelligence artificielle. Pour faire un petit topo sur l'intelligence artificielle, évidemment, tout le monde connaît évidemment les assistants vocaux, tu sais, la reconnaissance faciale, on voit ça beaucoup en Chine, évidemment, les autres sont très forts là-dessus, les suggestions de contenu de Netflix, Spotify, donc il y a beaucoup d'aspects, les robots aussi, qui battent même des joueurs d'échecs, les robots qui font aussi le ménage, les aspirateurs robots, donc l'intelligence artificielle est un peu partout. Mais, évidemment, ça s'implante de plus en plus, entre autres dans les villes qui veulent relier tout leur réseau ensemble pour essayer d'améliorer leur efficacité. Il y a aussi au niveau des voitures, évidemment, il y a des essais qui sont faits un peu partout. Google aussi, une auto qui se promène tout seul dans les villes, même ici au Québec. Il y a aussi le cinéma qui s'intéresse aussi à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que... une façon de faire du cinéma avec toutes sortes de trucs, je vais en parler tard, je fais une espèce de résumé de tous les aspects que je veux parler. Dans le secteur manufacturier aussi, au niveau des machines qui communiquent entre elles pour arriver à un produit qui est quasiment sans intervention humaine, et aussi les différentes machines qui vont transformer au niveau de la santé. Évidemment, on sait que l'analyse de certains... radiographie par des spécialistes, ça coûte très cher. Donc, arriver à ce que des machines puissent faire le même travail à beaucoup moins cher et beaucoup plus rapidement. Et aussi au niveau de la justice qui aussi, pour un avocat qui a à faire des recherches au niveau de la jurisprudence, c'est assez compliqué et difficile. Donc, aussi, l'intelligence artificielle va nous aider dans cet aspect-là. Et évidemment, il y a tout aussi l'aspect de l'éthique là-dedans et des droits. Donc, c'est différents aspects que on va regarder ça ensemble. Si tu veux intervenir, Michel, évidemment, je sais que j'imagine un peu au courant de tout ça, mais quand même, ça me fait plaisir si tu as des remarques ou des choses, comme d'habitude, évidemment, pour pouvoir bonifier tout ce que je veux dire.
Ben oui, ça va me faire plaisir, mais on va commencer à avancer avec l'article. Je reviendrai avec quelques points à la fin parce que moi, en 2005-2006, j'ai travaillé sur un système d'intelligence artificielle et je sais qu'il y a parfois beaucoup de confusion dans les articles puis dans les discussions parce qu'il y en a qui confondent et même des gens qui font des entrevues approfondies qui vont confondre les systèmes d'intelligence artificielle et les systèmes experts. Et ils mettent tout ça dans le même panier et c'est pas du tout la même chose. Moi, l'une des choses qui me touche le plus dans ce sujet-là, entre autres, c'est l'affaire la plus difficile à programmer pour les gens parce que je pense qu'un système qui apprend par lui-même est une chose extrêmement intéressante, mais la chose la plus difficile à programmer, tant qu'à moi, c'est la morale ou l'éthique, si on veut.
Donc, effectivement, c'est un problème, ça, l'éthique. Jusqu'à quel point on doit permettre à l'intelligence de cette espèce d'intrusion, surtout au niveau des échanges de données qu'il peut y avoir, de la collecte de données. Et on l'a bien vu avec les élections américaines, qu'il y a eu un problème là-dedans. Donc, l'éthique, je pense, est un gros, gros problème, effectivement, oui.
Yeah. Alors, je te laisse commencer.
Oui, ben c'est ça. Donc, si je prends d'abord le premier aspect que je voulais parler, c'est au niveau des villes. C'est sûr que ils sont pas mal au courant, mais le fait d'être connecté sur l'intelligence artificielle, donc améliorer les empreintes écologiques, c'est-à-dire que s'ils sont capables de relier tous les systèmes ensemble, mettons que y a une fuite d'eau quelque part. Bon, ils sont à même de la repérer beaucoup plus rapidement et de faire en sorte de faire la réparation en conséquence. Donc, ça va permettre de sauver de l'argent et forcément, sauver de l'argent, sauver évidemment, sauver l'empreinte écologique aussi parce qu'au niveau de l'essence et de tous les gens qui se promènent sur la route pour vérifier s'il y a des nids de poules et ainsi de suite, intelligence, ou peut-être pas au niveau des nids de poules, là, c'est moi qui dis ça, mais il y a quand même certains aspects, comme si on parle juste au niveau de d'une maison ordinaire, bon, encore là, on peut nous-mêmes avoir un détecteur de fuite d'eau, on peut aussi baisser le chauffage s'il y a un redout, donc ça peut être programmé d'avance. Mais si on met ça au niveau d'une ville, donc il y a beaucoup d'économies à faire, donc quand on parle d'économie, on parle d'énergie, donc on parle d'empreinte. Donc en temps réel, on peut vraiment être en mesure de tout vérifier ça. Oui, tu voulais dire?
Hein? Non, ben en fait, j'avais pas de je voulais pas intervenir, mais vu que t'en parles vraiment, moi je serais d'accord avec un système qui fait en sorte justement l'ajustement des lumières en fonction du trafic. Ça se fait par caméra, ça existe déjà à des endroits. Oui, je sais qu'on a les systèmes de plaque pression, mais il y a rien pour synchroniser rien. Et on, parfois, là, surtout le soir ou de nuit, il y a des systèmes qui sont pas programmés, automatisés pour laisser mieux circuler les autos. Ça fait que là, des fois, pour rien, on est là puis on attend 3-4 minutes au coin d'une rue.
Absolument. Donc, l'intelligence artificielle va permettre de relier tous ces systèmes-là. Si on prend aussi au niveau des alertes qu'il peut y avoir par rapport à des urgences, donc ça va permettre de mobiliser toutes les forces de façon nécessaire et de façon rapide aussi. Donc, évidemment, il y a une communication entre les policiers, les pompiers, les ambulanciers, c'est tous ces services-là. Mais si c'est décelé, comme on parle d'accidents qu'il pourrait y avoir, c'est sûr qu'il y a des caméras un peu partout, il y a des gens qui regardent les caméras et qui sont en mesure d'intervenir. Mais si l'intelligence artificielle voit qu'il y a un ralentissement et tout de suite sont en mesure de déceler la problématique dans le cas d'un accident et évidemment de faire intervenir les services d'urgence de façon optimale, au bon moment et rapidement, évidemment, là, on sauve beaucoup d'énergie et ça va améliorer beaucoup les choses. Comme justement, tu parlais pour ce qui est des feux de circulation, c'est un aspect aussi. Évidemment, il y a toute une analyse qui se fait au niveau des villes. Encore là, le problème, c'est, pour donner un exemple de ça, il y a des abribus intelligents dans le quartier Montréal. Donc, quand tu te branches avec ton téléphone dans cet abribus-là, il y a plein de données d'échange que tu fais et tout ça, c'est comme collecté quelque part. Et là, évidemment, avec ça, ils sont quand même capables de déceler les tendances, de voir un peu qu'est-ce que les gens, sur quoi ils travaillent. Bon, travaillent, évidemment, ils espionnent personne dans le sens personnel, mais il reste pour moi qu'il y a des données qui sont échangées. Et là, quand on parle d'éthique, ça peut être pernicieux. Mais par contre, ça va permettre évidemment d'améliorer certains aspects de notre vie, mais c'est toujours risqué ça. Si on va dans l'autre, mettons les voitures, la voiture intelligente, où est-ce qu'on en est un petit peu? Bon, on sait que Google fait des expériences en Californie, ça va, eux autres n'ont pas d'hiver, mais ici, il faut tester évidemment la machine dans des conditions qui sont un peu différentes. Il y a d'ailleurs à Candiac une petite navette électrique qui est autonome, mais quand même il y a quelqu'un à bord pour s'assurer que les choses se passent bien. Cette navette-là circule à 25 km/h et sur un circuit de 2 km/h. Évidemment, 2 km de long, je veux dire. Ce qui fait en sorte que ça permet d'analyser toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir. Mais où ils en sont dans cette approche-là, c'est que c'est un peu comme si cette petite navette-là avait appris son trajet par cœur. Donc, on n'en est pas encore à l'optimisation de la chose, c'est-à-dire qu'aussitôt que de la neige, parce que ça fonctionne par repérage avec des senseurs qui, par rapport aux lignes qui sont sur la route, donc sont en mesure d'ajuster les comportements de la navette puis tout ça, s'il y a des obstacles, ainsi de suite. Mais aussitôt qu'il y a de la neige, ça devient plus difficile. Là, évidemment, ils font des tests, donc ils pensent aussi à y aller avec le rayon laser, des rayons X plutôt. Donc, à partir de ça, ça va être plus facile de déceler certaines choses qu'à l'œil nu, on ne verrait pas. À cause de la neige, j'entends là. Évidemment, il y a tout l'aspect d'hiver, comme j'ai dit, donc la poudrerie, la glace, la neige. Donc, ça devient une problématique qui est différente un peu quand on place le contexte en Californie. Donc, c'est un peu, on est un peu à apprendre beaucoup. Nous, on est cette problématique est beaucoup plus difficile par rapport aux voitures autonomes. On va sûrement y arriver, mais pour l'instant, on en est vraiment à des essais. Puis même, ils ont arrêté en décembre dernier, les expériences parce que ça, c'était trop difficile. Mais bon, ils vont finir par s'en sortir.
Oui, ben c'est sûr que là, en ce moment, ils essaient de dire hey, « on change rien dans notre système routier puis on veut rendre l'auto intelligente. » Mais s'ils voulaient faire quelque chose d'un peu plus intelligent, ma suggestion serait d'utiliser des technologies non-invasives comme le RFID, par exemple. Tu sais, ces fameuses petites puces qu'on peut lire, qui font seulement de l'émission. Pareil comme ce qu'on met dans un chien, exemple. Donc, c'est des puces RFID.
Donc, des micro-puces, ça, oui.
Ouais, donc, sur le même principe, c'est que d'arriver à tous les temps de pied avec une machine spéciale, on pourrait puncher ces genres de puces-là à l'intérieur du bitume. Et à ce moment-là, les voitures pourraient détecter ces codifications-là parce que chaque puce a une codification indépendante. Mais comme ça ne prend pas beaucoup de mémoire, on serait capable de savoir à quelle distance qu'on est entre les puces, est-ce qu'on est entre chacune d'elles et tout ça. Et moi, je pense que c'est un petit peu utopique de s'imaginer qu'on va réussir à faire quelque chose d'assez intelligent pour s'occuper de rien. Moi, je pense qu'il faut aller vers se rajouter des petites technologies pour s'aider.
Ben sûrement que ça va y arriver, qu'on va y arriver. Encore là, tu viens de dire, oui, si on ajoute ça dans la chaussée, ben forcément, oui, ça va aider. Un autre aspect aussi au niveau des voitures, c'est qu'ils vont pouvoir éventuellement communiquer entre elles. Donc, à partir du moment où ils vont faire peut-être des trains, comment on appelle ça, en convoi, ouais, des convois de voitures qui communiquent entre elles. Donc, ça va être plus facile d'organiser le trafic. C'est un des aspects. En tout cas, il y en a plein, comme tu viens de dire, là, par rapport aux petites puces. Il y a plein d'aspects qui sont regardés là-dedans. Bon, on va y arriver.
Oui. D'ailleurs, tu parles des voitures qui vont se parler entre elles. La chose qui va être super intéressante, c'est souvent, mettons, la lumière change. Tu as une auto qui finit par décoller. Après ça, l'autre finit par s'en rendre compte puis finit par décoller. Puis là, lui, il démarre plus lentement que l'autre. Puis là, ça prend du temps puis il n'y a presque pas d'auto qui passe. Puis là, bang, ça revient au rouge. Donc, mais si les autos se parlent entre elles, c'est qu'elles vont toutes démarrer à la même vitesse et elles vont toutes se suivre automatiquement. Puis ça peut sur des simulateurs, on a vu des augmentations des fois de 25 à 40% de véhicules de plus qui passaient pour la même durée de lumière.
Ah oui, c'est extraordinaire. C'est certain qu'on va y arriver puis que ça va beaucoup améliorer notre vie. C'est un gros plus, ça, moi, je trouve, l'intelligence artificielle.
Ben oui, absolument.
Puis au niveau des arts, le cinéma va nous arriver à nous captiver. Évidemment, là, c'est un peu à l'essai, mais il y a des choses qui se sont faites quand même. Un film qui s'appelle d'ailleurs « L'impossibilité du Nil », Martin Beauregard qui a fait ça. C'est comme un imaginaire visuel. Donc, c'est toutes des ils ont pris comme des objets, puis ils ont tout mis ensemble, et avec des algorithmes, ils ont fait bouger ça, et avec une musique, donc ça donne comme une espèce d'autre monde, avec des objets familiers, wow. Qui est assez spécial. Donc, il y a des explorations aussi au niveau du cinéma par rapport à ça. Donc, les algorithmes généreraient des espèces de formes, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, il faudrait le voir pour mieux saisir qu'est-ce que c'est, mais ça semble très intéressant comme aspect au niveau des arts. En tout cas, moi, je me dis, oui, ça serait, j'ai hâte de voir ça. Là. Il y a aussi le secteur manufacturier, qui, lui, est très, très prometteur. Évidemment, dans une chaîne de production, il y a des vieilles machines, des nouvelles machines et forcément des trucs qui sont encore faits à la main parce que tout n'est pas automatisé à 150%. Peut-être certains aspects, certaines manufactures sont peut-être là, mais pas tout le monde. Donc, quand tu achètes une nouvelle machine, il faut que tu la rimes avec les autres. Donc, l'intelligence artificielle va faire en sorte que... il va falloir modéliser tout ça et avant même d'acheter la machine, on va être en mesure, avec l'intelligence artificielle, de regarder, faire des simulations pour voir, OK, si on met la machine, comment on va la faire interagir avec l'autre pour faire en sorte d'optimiser justement la relation qu'ils ont les machines entre elles pour éventuellement, si on est capable, on a assez d'argent, bon, on met tout, évidemment, qui des nouvelles machines, mais ça se fera pas. Il y a personne qui a assez d'argent pour changer toutes ces machines en même temps.
Ben non.
Donc, l'intelligence artificielle va nous aider à faire en sorte qu'ils vont mieux s'arrimer l'une avec l'autre. Donc, il y a des études qui sont faites là-dessus. Entre autres, ben, dans l'aérospatiale, évidemment, dans l'alimentation. Évidemment, bon, quand on achète en ligne, c'est tout fait, évidemment. Il y a une intervention humaine, évidemment, là, mais il y a quand même une façon de gérer tout ça par l'intelligence artificielle. Puis même, à un moment donné, il y a une question de sécurité aussi dans les machines artificielles. C'est-à-dire que pour arrêter une machine qui va mal, il y a un bouton, un gros bouton qu'on pèse dessus. Mais si l'intelligence artificielle fait en sorte qu'elle voit qu'il y a un problème là, donc avant que quelqu'un se prenne un bras dans la machine, elle va être en mesure de détecter la problématique et d'arrêter elle-même la production pour faire en sorte que ce soit sécuritaire. Donc, l'intelligence artificielle va nous aider à ce niveau-là.
Absolument.
Il y a aussi, au niveau médical, j'en ai parlé tout à l'heure, évidemment, un gros aspect de la radiologie, c'est de, ça prend un spécialiste, évidemment, pour analyser tout ça, et puis ça coûte cher, un radiologiste qui examine ça, et ça prend du temps. Ça peut prendre jusqu'à une semaine pour vraiment repérer les tumeurs. Évidemment, eux autres, c'est par rapport à leur expérience, donc l'apparence, et tout ça fait en sorte qu'ils sont à même de dire, oui, ah, oui, il y a peut-être un problème là. Mais l'intelligence artificielle, évidemment, il faut qu'elle l'apprenne. Donc, à travers des annotations, donc à travers ce qui a été fait par des spécialistes, on met ça dans l'ordinateur, et l'intelligence artificielle va faire en sorte que la machine va apprendre à déceler les tumeurs en question et même des micro-tumeurs que le spécialiste, même avec son expérience, n'a pas tout à fait vu. Et il paraît que c'est fiable jusqu'à 80%. Et pour atteindre le 100%, évidemment, on va y arriver, mais ça prendrait plus de radiographie annotée. Donc, évidemment, ça dépend de la grosseur qu'on a ici au Québec. Donc, on n'a peut-être pas encore assez d'annotations pour faire en sorte que la machine puisse s'améliorer jusqu'à 100%, mais encore là, on va y arriver. Donc, ça, il y a une perte de temps, évidemment, là-dessus, mais avec l'intelligence artificielle, on va sauver énormément de temps, donc encore là, beaucoup d'argent. C'est un aspect, en tout cas, que moi, je trouve très, très intéressant au niveau de la santé par rapport à la radiologie.
Tellement.
Mais sûrement dans d'autres domaines aussi qu'on peut insérer au niveau santé l'intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est ce qui est écrit dans l'article, mais comme je viens de dire, je suis persuadé que dans différents domaines, ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau de la santé, j'entends là.
Je suis content que tu aies amené ce point-là. On donne de l'information à la machine et la machine apprend à faire de nouvelles détections qui n'étaient pas prévues dans la programmation.
Et absolument.
C'est ça l'essence même de l'intelligence artificielle. Je sais que la définition tend à changer sur le marché là, depuis quelques années, mais parfois on a tendance à mélanger intelligence artificielle et système expert, qui sont deux choses complètement différentes.
Ouais, tu en parlais tantôt, c'est quoi la différence exactement? J'ai l'impression, hein?
Ouais, donc l'intelligence artificielle, là, théoriquement, là, si on prenait la définition pure, devrait être qu'un appareil ou quelque chose qu'on a programmé va pouvoir apprendre pour prendre de nouvelles décisions par lui-même en fonction des facteurs qui lui sont donnés. Donc, il y a un système d'apprentissage à l'intérieur. On ne lui a pas programmé ses réponses, lui, il les découvre. Et il va les gérer en fonction de tous les nouveaux paramètres qu'il continue d'enregistrer avec le temps à force de faire les actions qu'il pose. Okay? Tandis que le système expert, c'est qu'il y a il y a quelqu'un en arrière qui a programmé toutes les possibilités que cet appareil-là peut faire en fonction des paramètres. Et toutes les possibilités de décision qu'il peut prendre sont déjà préprogrammées. Il ne peut pas en apprendre de nouvelles.
OK.
C'est ça la différence entre les deux. Donc, très souvent, ce qu'on va remarquer comme exemple dans des appareils d'usine, la plupart, on pense qu'ils sont sur intelligence artificielle, mais sont en réalité sur des systèmes experts. Donc, l'erreur que peut produire une machine va avoir été causée par une mauvaise programmation humaine. OK? Tandis que l'intelligence artificielle, ça va également être aussi une forme d'erreur de programmation si on n'apprend pas bien à la machine à savoir quoi faire avec les nouveaux facteurs d'information qu'il possède, mais il a cette puissance-là de pouvoir apprendre et de prendre de nouvelles décisions en fonction de ces nouveaux facteurs-là.
OK. Bon, je continue dans mon idée. C'est très, très, très intéressant. Tu vois, je connaissais pas cette différence-là, mais merci de m'éclairer. Dans le cas des appareils électroménagers, il y a aussi l'intelligence artificielle qui va aider. Bon, quelqu'un qui est déficient, évidemment, peut oublier de fermer le rond. Donc, les nouvelles cuisinières vont être en mesure de détecter les problématiques qu'il pourrait y avoir par rapport à ça. Mais encore là, on parlait de caméras qui sont intrusives, mais il y a des nouvelles façons de vérifier comment les gens qui sont, mettons, déficients, comment ils fonctionnent, c'est-à-dire avec des accéléromètres, avec des gyroscopes ou avec des capteurs d'infrarouge. On est en mesure d'analyser comment les gens se comportent dans leur maison. Et si, par rapport à leur routine, il y a des changements, ben, l'intelligence artificielle va être en mesure de détecter et de faire en sorte que, par rapport à une analyse, évidemment, quel est le problème exactement et pouvoir, évidemment, envoyer un signal à des gens qui sont en mesure d'intervenir à ce moment-là. Donc, la personne risque de se brûler si elle oublie le rond, et ainsi de suite. Donc, il y a plein de trucs qui peut aider par rapport aux électroménagers dans ce sens-là. Évidemment, il y a des gens en perte d'autonomie aussi, des gens qui sont vieillissants, peut-être même des aveugles aussi. C'est les nouvelles générations d'appareils électroménagers vont pouvoir aider dans ce sens-là. Évidemment, toujours par rapport à un apprentissage, comme on disait là. Il y a aussi un truc que je trouve intéressant. Il parle de suicide en prison. Comment prévenir l'irréparable? C'est-à-dire que ils ont fait des simulations avec une caméra. Donc, évidemment, ils ne pouvaient pas demander aux gens de se pendre pour vrai. L'arrêté est vraiment débile. Donc, ils ont simulé des différents scénarios de pendaison. Parce qu'il paraît que la pendaison, c'est la façon la plus usuelle de s'enlever la vie en prison. Parce qu'il ne peut pas y avoir une surveillance 24 heures sur 24 sur tout le monde. Là, c'est quand même difficile. Donc, à partir de caméras, ils sont en mesure de déceler différents scénarios. Et suite à ça, ils ont pu, avec une précision de 90%, voir quand il y avait un danger de suicide par rapport à la pendaison. Le seul problème, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de différencier la mise d'un chandail ou quand on se passe une cravate autour du cou. Donc, c'est une problématique, mais il reste pour moi que ça peut quand même sauver beaucoup de vies en prison, parce que c'est sûrement pas facile de vivre, d'être enfermé à 24 heures sur 24 dans une prison.
Puis, ils n'ont sûrement pas de cravate en prison, de toute façon.
Sûrement pas, mais il y a quand même, tu peux enlever ton chandail ou le remettre, donc ça aussi, c'est... Mais ils vont y arriver encore là, c'est certain. Mais je trouve ça intéressant de voir que cet aspect-là est abordé dans l'intelligence artificielle. Il y a un autre article là-dedans, c'est quand la machine analyse la machine. C'est-à-dire que il faut comprendre comment la machine fonctionne, et pour comprendre la machine fonctionne, c'est pas une autre machine, autrement dit, l'intelligence artificielle s'analyse elle-même, si on veut, pour arriver à améliorer les bases de données, pour reconfigurer automatiquement par traitement, pour que ce soit encore le plus rapidement possible. Parce que normalement, quand il analyse la façon dont ça fonctionne, il paraît que, moi je connais pas ça, tu me corrigeras si je me trompe, mais ils font un test avec un code, ok? Puis là, ils mesurent les répercussions pour voir si ça fonctionne ou pas. Et là, ils font des ajustements en conséquence. Mais c'est laborieux et ils font ça vraiment par rapport à une façon de faire. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, on lui dit... les paramètres qu'on veut tester et l'intelligence va faire en sorte que ça va aller dans toutes sortes de ça va analyser plein de trucs, plein d'aspects, au lieu d'aller avec un code, de tester pour voir si ça fonctionne, alors que l'intelligence artificielle va permettre de vraiment avoir un éventail beaucoup plus large d'analyse et d'aller plus rapidement à trouver la meilleure façon de réussir la chose en question. Mais on a même fait des tests et puis il paraît qu'ils sont en mesure d'aller 50 fois plus rapidement, d'accélérer le calcul pour arriver à la meilleure solution possible. C'est quand même énorme, 50 fois d'amélioration. Donc, c'est 50 fois, ça veut dire 5000%, si je me trompe pas. En tout cas, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, la machine qui analyse elle-même. C'est spécial.
C'est complètement fou. Écoute, Gaston, c'était vraiment super intéressant comme sujet. Je pense que si on revient dans une chronique, là, si j'avais une demande spéciale à faire, on pourrait continuer le sujet. Mais là, parler d'éthique et de morale dans l'intelligence artificielle, je trouverais ça très intéressant. Ça pourrait faire partie d'une continuité de ce sujet-là dans une semaine à venir.
Absolument, absolument. C'est vraiment, je pense, comme on parlait au début, c'est le bas qui blesse, comme on dit, c'est l'aspect qui fait en sorte que, oui, on veut bien partager des données, on veut bien améliorer notre vie, mais jusqu'à quel point ça rentre dans nos vies privées, effectivement, c'est un sujet qui en soi pourrait faire l'objet d'une chronique. Je vais réfléchir à ça.
Parfait. Rappelle-nous dans quelle revue on pourrait lire l'article?
C'est dans Québec Science, avril-mai 2019. C'est pas d'hier, mais c'est pas loin d'hier. Non, c'est toujours d'actualité. C'est très à jour. Même si ça fait quelques mois déjà, il n'y a pas de problème. C'est captivant à lire, c'est bien fait. C'est très intéressant.
Ben Gaston Côté, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour faire ces recherches-là. Pour nous, c'était très intéressant. On se reparle la semaine prochaine.
C'est parfait. Merci, Michel. Salut.
Voilà, vous êtes à Prends ton gaz égal. Au retour, restez là. On se parle de pneus et de financement pendant le COVID. On se parle automobile avec la capsule à Chris. Restez là.
Salut gang, ici Jeff,
Bruno,
Alex,
et nous sommes
Some Days,
et vous écoutez Nike Radio.